Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Amen. J'ose espérer que vous allez très bien par la grâce de Dieu, mais moi, par la grâce de Dieu, je vais très très bien. Je bénis le nom du Seigneur encore ce matin pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour la force et le courage qu'il nous renouvelle encore aujourd'hui. Et je bénis l'Éternel pour le privilège qu'il m'accorde encore ce matin de parler de sa part. Alléluia. Bien-aimés, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous aime, notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Il faudrait que nous nous mettons ça dans nos têtes, qu'il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Qu'il faudrait toujours qu'on espère en lui, qu'on lui fasse totalement confiance, parce que sans lui, nous ne sommes rien, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui lundi de Pentecôte, et aujourd'hui, nous continuons l'enseignement sur la Pentecôte. Alléluia. Hier, nous avons commencé et nous nous sommes arrêtés sur le passage qui parle du passage de Jean et Pierre en prison. Et dans la nuit, ils ont été visités par un ange, alléluia, qui les a sortis de la prison en leur intimant de sortir et d'aller au temple prêcher la parole de Dieu. Bien-aimés, ils sont sortis et pourtant il y avait des gardes. Mais c'est comme si les gardes étaient voilés. Donc Pierre et Jean étaient invisibles. Ça, c'est là. Puissance du Saint-Esprit. Alléluia! La puissance du Saint-Esprit. Donc, nous allons continuer dans cette lancée. Amen. Le Saint-Esprit fait des choses merveilleuses. Il fait des choses extraordinaires. Amen. Mais avant de commencer, nous allons écouter une louange. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia! Amen.
Réveille notre foi. Seigneur, fais de notre maison un temple vivant. Que ta présence demeure continuellement parmi nous. Comme le vent impétueux qui remplit la chambre haute. Viens habiter dans nos pensées, nos paroles et nos familles. Et fais de nous un peuple consacré à ta lumière.
Oui, Seigneur, que ton souffle descende maintenant sur notre maison. Que ton souffle descende maintenant en ce lieu. La lumière de Dieu envahit maintenant ta demeure. Seigneur, viens remplir notre maison de ta présence. Viens remplir ce lieu de ta présence. Souffle de Dieu, demeure en nous. Demeure dans nos maisons. Aïe, aïe, aïe.
Et ton esprit transforme nos pensées.
Amen.
Viens restaurer les familles brisées.
Ah Seigneur, viens restaurer les familles brisées.
Apporte la vie dans notre maison.
La présence de Dieu apporte la vie dans nos maisons. Alléluia.
Hey.
Que ta paix règne dans tous les cœurs, Seigneur. Feu du ciel embrase nos vies. Aïe, 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 la puissance du Saint-Esprit.
Près de ta présence. Hey! Sans esprit, sans avec puissance, viens remplir notre maison de ta présence.
Oh, Seigneur, viens remplir ce lieu de ta présence. Et que ta paix règne dans mon cœur. Et que ta paix règne dans tous les cœurs. Aïe. Bien-aimé, fais de ta maison un lieu d'adoration. Aïe, aïe, aïe. Ta grâce nous conduit vers la lumière éternelle. Alléluia. Ton feu consume nos peurs profondes. Aïe, aïe, aïe. La peur n'a pas lieu d'être dans ta maison. Tu ne peux pas entretenir la paix. Alléluia. Alors la puissance du Saint-Esprit vient embraser cette peur et te rendre libre. Alléluia. Shalom, shalom, tonton Alain, que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore aujourd'hui. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Nous sommes aujourd'hui lundi de Pentecôte. Nous continuons notre enseignement sur la Pentecôte. Hier, nous nous sommes arrêtés sur le passage qui parlait de Jean et Pierre en prison et qui nous parlait de lorsque l'ange est venu au milieu de la nuit les sortir de la prison, alléluia, sans rien casser, amen, pour les amener au temple prêcher la parole, parce que c'était cette recommandation qu'ils avaient. Donc ils sont passés devant les gardes, sans que les gardes les voient. Donc on va dire quelque part que le Seigneur a aveuglé les gardes, et puis il a rendu Pierre et Jean invisibles, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia, la puissance du Saint-Esprit fait des choses extraordinaires, fait des choses qui étonnent les gens, c'est normal, c'est le Saint-Esprit, alléluia. Donc nous allons continuer aujourd'hui sur cette lancée, sur l'enseignement de la Pentecôte, amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, union et charité des chrétiens, ou des croyants si vous voulez. Le discours de Pierre et la guérison du boiteux précédemment a poussé à Pierre à avoir une confiance et une assurance en Christ, au point où la prière que fit Pierre, provoquant le tremblement de terre, et les croyants furent tous remplis du Saint-Esprit. My God, la prière de Pierre était tellement forte, alléluia, que ça provoquait un tremblement de terre, et les croyants qui étaient là ont été remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes remplis, je dis bien remplis du Saint-Esprit, on fait tout avec assurance, c'est-à-dire que Dieu utilise ta bouche, tu ne sais même pas ce que tu dis, mais les gens qui t'écoutent sont étonnés des merveilles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Nous allons lire Actes 4, versets 27 à 31. Je lis la parole de Dieu avec respect. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Alléluia. Ça, c'est la demande que Pierre a fait à Jésus. Alléluia. Donc, bon, tous les apôtres plutôt ont fait à Jésus. Et le verset 10 dit, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc, excusez-moi, les apôtres ont fait cette prière à Dieu. Amen. Ils savaient qu'ils allaient être attaqués, ils allaient être injurés. Donc, pour convaincre ces gens, il fallait qu'ils parlent avec assurance. Il fallait que les gens voient les miracles. Amen. Mais on a beau parler, prêcher, être éloquent, vraiment connaître les versets bibliques par cœur. Mais s'il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit, si on ne constate aucune guérison, aucun changement dans la vie de la personne, c'est que tu as parlé dans le vent. Alléluia. Et le verset 31 dit ceci, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ils ont fait cette prière à Dieu. Alléluia. Il a exaucé leur prière. Donc, Dieu ne fait rien pour rien. Il faut que son nom soit glorifié dans nos vies. Amen. Alors, ces croyants étaient tellement impressionnés qu'ils apportèrent leurs biens aux pieds des apôtres. Acte 4, verset 32 à 35. Acte 4, verset 32 à 35. La parole de Dieu dit ceci. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. C'est normal, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Alléluia. Le verset 35 dit, « Et le déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Alléluia. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es convaincu qu'il peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Bien aimé, être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli aussi de beaucoup d'amour. Donc, ces personnes ont vu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et voilà ce qu'ils ont fait. Ils partageaient les biens ensemble. Amen. Bon. Cette union et cette charité des croyants avaient été appréciées par le Saint-Esprit. Mais Ananias et Saphira, un couple ayant reçu le Saint-Esprit va jouer avec cette puissance. Alléluia. Voilà, il y a beaucoup de croyants qui font la même chose que Ananias et Saphira. Alléluia. Après avoir menti au Saint-Esprit, Dieu et Jésus vont les faire mourir. Alléluia. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu et de Jésus et de sa puissance. Nous allons lire Acte 5, verset 1 à 11. Amen. Acte 5, verset 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Bien-aimé, le Saint-Esprit te révèle des choses. Pierre n'était plus un homme animal, c'était un homme spirituel. Alléluia. Il était rempli du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit lui a dit, voici ce que Ananias a fait. Mais on ne peut pas se moquer de Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Donc, quand tu veux donner à Dieu, on ne te met pas la laisse au cou. Si tu veux, donne ou tu ne donnes pas. mais ne viens pas donner une partie. Tu dis, j'ai vendu mon terrain et tout ce que je vais gagner dans ce terrain, je donne à Dieu. C'est toi qui as résolu de le faire. On ne t'a pas obligé. Tout ce que nous disons sur la terre là, c'est scellé au ciel. Alléluia. Et donc, lui vient devant quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Devant celui qui a la puissance de Dieu en lui. Et tu viens avec un mensonge. Mais tu seras détruit. Alléluia. Alors, Pierre lui dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Parce que la promesse que tu as faite, c'était pour Dieu. Non, je vends le terrain, je donne cet argent pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, donc pour Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu t'accordes même avec ta femme. Alors, Ananias, entendu ces paroles, tomba et expira. On n'a pas dit qu'il est tombé, il a eu mal au pied, il s'est... Non, on a dit tomba et expira. C'est pour vous dire que Dieu nous met dans le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Tomba et expira. Et la parole de Dieu dit, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. On n'a pas pleuré, on n'a fait aucune réunion, aucun, rien. Tu as menti à Dieu, voici les conséquences. Amen. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. C'est normal qu'elle dise ça, parce qu'elle s'était entendue avec son mari. Voici, on a vendu le terrain. Voici ce qu'on donne à Dieu, et nous, on garde le reste. Et quand on va te demander, est-ce que c'est à ce prix-là? Tu dis oui. Amen. Ils étaient fusionnels. C'est que mon mari dit, je fais. Même dans le mensonge, dans la bêtise, elle a suivi son mari. Il ne faut pas suivre les gens bêtement. Hein? C'est parce que si ta femme va te dire, fais ça, tu fais. C'est pas parce que ton mari va te dire, fais ça, tu fais. Même si vous êtes fusionné, à un moment donné, quand tu es croyante, justement, l'Esprit de Dieu habite en toi quand même, non? On a dit que ces gens-là avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et ils ont joué avec la puissance du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont joué avec ça. On continue. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit de Dieu? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Alléluia. Au même instant, la parole de Dieu nous dit quoi? Elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Donc, elle est tombée, elle a expiré comme son mari Pierre et son mari Ananias est tombé, il a aussi expiré. Le mensonge te tue. C'est qui le père du mensonge? C'est Satan. Donc, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand tu entends ce genre de choses, si tu n'as pas peur, si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu as choisi ton camp, c'est que tu es habité par l'esprit du diable. Ce sont des choses qui se sont passées devant les hommes. Et ces personnes ont eu peur qui disent, ouais, ça c'est vraiment la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pardonne pas. S'il a dit oui, c'est oui. S'il a dit non, c'est non. S'il a dit tu te tues. Et puis c'est tout. Parce qu'ils ont menti. C'était des personnes qui étaient avides d'argent, des cupides. Et voilà où l'argent les a emportés. À la mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas notre ami. Ne jouons pas avec Dieu. Il a le droit de vie et de mort. Il peut te prendre. Là où je suis en train de prêcher, il peut aussi faire qu'il me prend la pluie. Et puis vous allez dire quoi? Je suis parti. On ne joue pas avec Dieu. Les apôtres, ayant parlé avec assurance, ayant guéri les malades, ayant baptisé plus de 3000 disciples, ils constituaient maintenant une grande menace. Ces gens guérissent les malades. Ces gens parlent avec assurance. Le peuple en train de suivre ces hommes, ils étaient en danger. Alléluia. Donc, ils étaient une grande menace pour le Sanhédrin et l'Empire romain. Pendant au moins 7 ans, les disciples furent persécutés, mis en prison, tués pour certains comme Étienne. Pendant 7 ans, ils n'ont pas eu la paix. Ils étaient persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu et ils gagnaient des âmes à Christ. Alléluia. Et donc, persécutés qu'ils étaient là, certains étaient morts, certains étaient en prison, morts comme Étienne et d'autres en prison comme Pierre, Jean. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu et que tu ne sois pas persécuté. Parce que la parole de Dieu change, transforme, restaure, guérit, ressuscite. Alléluia. Et ça dérange. Ça dérange. Qui es-tu pour annoncer la parole de Dieu? Et qui es-tu pour que tout le monde te suive comme ça? À cause de qui? À cause de quoi? Quel est ce nom? Donc, ça dérange. Forcément, tu seras persécuté. Donc, toutes les personnes qui servent Dieu et qui se plaignent à chaque fois qu'ils sont persécutés, c'est que vous n'avez rien compris. Les apôtres étaient persécutés à cause du nom de Jésus. Donc, tu seras aussi persécuté. Si tu n'es pas persécuté, pose-toi la question de savoir quel Dieu tu sers. Alléluia. Le meurtre d'Étienne fut approuvé par Saul de Tarse. Acte 8, verset 1 à 3. Acte 8, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes purent ensevelir Étienne et le pleurer à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est ce que Paul, du moins il s'appelait encore Saul, Saul de Tarse, faisait. Il croyait qu'il était Dieu, il croyait que vraiment il était le centre du monde. Donc il faisait comme il voulait, il rentre dans les maisons, il tue, il fait comme il veut. Alléluia. Donc, mais seulement. Bienvenue dans le Seigneur, on continue. Donc, le meurtre d'Étienne fut approuvé par Saul de Tarse, acte 8, verset 1 à 3 que je viens de lire. Pharisien zélé. Saul de Tarse était zélé. Alléluia. Pharisien zélé qui a persécuté aussi les fidèles de Jésus. Dans son zèle, pour l'éradication des fidèles de Christ qui s'étend à Syrie et dans toute la Méditerranée, il demande des lettres d'introduction auprès de Sanhédrin afin de se rendre dans les synagogues de Damas pour faire quoi? Hein? Afin de mener, lier les adeptes du christianisme. Amen. Donc, il a demandé une lettre d'introduction et quitte Jérusalem pour aller à Damas pour aller encore persécuter les enfants de Dieu. Hein? Mais il était zélé dans le mal, hein, ce Paul de Tarse. Alléluia. Mais il ignorait quelque chose. Que Jésus l'observait depuis là-haut. Donc, depuis le monde spirituel là-bas. Jésus l'observait. Alléluia. Jésus l'observe depuis là-haut et suit tous ses mouvements. Et c'est en entrant dans la ville de Damas qu'il reçoit la puissance du Saint-Esprit en plein visage qu'il aveugle. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant 7 ans, les apôtres ont été persécutés. Donc, Paul se disait, Jésus est mort, il est parti, c'est fini, ses apôtres sont seuls, donc je peux faire ce que je veux. Mais il ne savait pas que ce Jésus qui était mort a été ressuscité et qu'il reviendrait. Et que depuis là-haut, là-bas, il voyait tout ce qu'on faisait. Alléluia. Les apôtres étaient persécutés, bien, mais c'était une épreuve aussi pour voir s'ils avaient vraiment confiance en Dieu, que même dans les persécutions, qu'il pleuve ou qu'il neige, dans des bons comme des mauvais moments, nous allons continuer à servir, à proclamer la parole de Dieu, parce qu'ils avaient la certitude que la parole de Dieu, l'évangile, faisait des choses extraordinaires. Rien que à la mention du nom de Jésus, les boiteux marchent, les aveugles voient, les stériles enfantent, alléluia, les sourds entendent. Comment nous pouvons nous taire? Comment nous pouvons marcher selon la volonté de l'homme? Qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme est là pour persécuter, mais ne fait rien de bon. Alors, ils ont continué dans la persécution. Toi qui te dis serviteur, servant de Dieu, est-ce que tu peux continuer à servir Dieu dans la persécution? À un moment donné, tu vas t'arrêter. Parce que tu vas dire, je ne suis pas là pour sauver le monde, je ne suis pas Jésus. Mais eux, ils ont continué. Alléluia. Et donc, Paul pensait qu'il ne s'en remettrait jamais, que ces gens-là, ils sont persécutés, ils continuent aussi à persécuter. Alléluia! Les apôtres étaient persécutés, Paul dit, bon, moi je veux continuer aussi à persécuter l'église de Dieu, mais il ne savait pas que là-haut, là-bas, Jésus le voyait. Jésus suivait tous ses mouvements. Amen! Donc, et c'est en entrant dans la ville de Damas qu'il reçoit la puissance du Saint-Esprit en plein visage qu'il aveugle. Acte 9, versets 1 à 5, je lis la parole de Dieu avec respect. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup de lectures, mais c'est très important. Alléluia. Donc, acte 9, à partir du verset 1 au verset 5. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Il dit hommes ou femmes, c'est qu'il n'avait des gardes pour personne. Tu es une femme, c'est pas son problème. Tu es enfant, c'est pas son problème. Alléluia. Il avait un objectif, c'est de persécuter, c'est de finir avec les adeptes de Jésus. Amen. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Cette lumière, c'était quoi? C'était la puissance du Saint-Esprit. My God! Alléluia! Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Hein? Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il savait qu'il y avait un Dieu. « Qui es-tu, Seigneur? » Il n'a pas dit, « Qui es-tu, toi? » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguilles. » Alléluia. Ah, Seigneur Jésus, Dieu est merveilleux. Amen. Donc, Paul pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Alléluia. Il pensait, hein, oubliant que Jésus avait revêtu un corps glorieux et que l'espace-temps n'existe plus. Donc, il était partout, partout. Il voyait tout, il entendait tout. Il était partout. Amen. Ensuite, nous allons lire Matthieu 28, verset 19. La parole de Dieu dit que bien que Jésus était au ciel, mais la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Matthieu, verset 28. Excusez-moi, verset 28, non, chapitre 28, verset 19, ceci, je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 28, verset 19, la parole de Dieu dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer, verset 20, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien que Jésus n'était pas avec les apôtres physiquement, mais il était avec eux en esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, dans ces persécutions, pourquoi est-ce que les apôtres n'abandonnaient pas? Parce qu'ils avaient, ils étaient habités d'une puissance qui leur donnait vraiment de continuer le travail qu'ils avaient à faire. Donc, quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas faiblir. Tu es obligé. C'est-à-dire que ça te donne une force que toi-même, tu ne comprends pas. Et pourtant, tu es persécuté. Mais c'est comme si ces persécutions te donnaient la force de continuer. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Ensuite, s'ensuit un échange entre Jésus depuis le monde invisible et Paul. Il y a eu un échange, je viens de le lire. Mais Jésus, dans l'acte des apôtres, chapitre 9, verset 4, Paul plutôt, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Alléluia. Ça, c'était Jésus dans le monde spirituel qui parlait à qui ? À Paul. Et Paul dit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Alléluia. Et le Seigneur répondit, Et le Seigneur répondit dans Acte 9, verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, ça c'est maintenant Jésus qui répond, il dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. C'est qui les aiguillons? Ce sont les Sanhédrins, le peuple et Rome. Seul, tu ne peux pas résister devant ces hommes. Donc il te faut être rempli du Saint-Esprit. Donc je t'appelle et je te remplis du Saint-Esprit. Sans ça, tu ne pourras pas combattre le Sanhédrin, le peuple, alléluia, et Rome. Donc, nous continuons, bien-aimés dans le Seigneur. Et Paul, dans Actes, chapitre 9, verset 6, la parole de Dieu dit, « Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui persécutait l'Église de Dieu, alléluia, qui se croyait invincible, c'est lui qui dit, tout tremblant et saisi de foi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'on peut jouer avec ce Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'on peut jouer avec lui? Donc, dans toujours Actes 9, verset 6, c'est toujours le dialogue entre Jésus depuis là-haut, dans le monde invisible, et Paul. Et le Seigneur lui dit, acte 9, toujours dans le verset 6, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Ah! On est dans la confusion. Alléluia! Donc, on est un peu confus. « On te dira, mais qui ?» Il est mystérieux aussi, hein, Jésus. Mais on te dira. Attention, il y a un détail important. Lorsque Jésus s'est manifesté à Paul, les gens qui l'accompagnaient entendaient la voix de quelqu'un, mais ne le voyaient pas. Ah! Ils ont entendu comme Paul, mais personne ne voyait. Et la seule personne qui a reçu les instructions, c'est Paul. Pas eux, mais ils ont entendu la voix de Jésus dans le ciel. Alléluia. Acte 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. C'est pas mystérieux, ça? Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Alors, Paul, on va dire que c'est un grand mystère. Amen. C'est vraiment un mystère. Est-ce qu'on peut réaliser ça? On est tous là. Je suis Paul. Je tombe. Tous ceux qui m'accompagnent sont aussi à terre. Parce que je ne veux pas être le seul. Donc, on a été terrassé par cette puissance qui venait d'en haut. On entendait tous la voix. Mais on ne le voyait pas. Hein? Est-ce qu'on peut réaliser ça? C'est Dieu. C'est Dieu tout simplement. Alors, Paul se leva Et ne voyant rien, il resta 3 jours sans voir, ni manger, ni boire. 3 jours à sec. Non seulement tu ne manges pas, tu ne bois pas, mais tu es aveugle. Acte 9, verset 8 à 9. Seul se releva de terre et quiconque, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Alléluia. Le verset 9. Il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Alléluia. Bien aimé, les 3 jours à sec là, c'était pas anodin. C'est dans ces 3 jours à sec et aveugle qu'il a reçu des visions. Donc il fallait qu'il soit dans un endroit où il est seul pour recevoir les recommandations de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas te donner une mission sans qu'il t'isole, sans qu'il ne te fasse passer par, je sais pas moi, une situation que toi-même tu ne comprends pas. Il est obligé de faire quelque chose que tu ne comprends pas pour que tu puisses le chercher. Et que tu reconnaisses que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, tu ne peux rien. Amen. Alléluia. Dieu n'est-il pas merveilleux? Ah, la parole de Dieu, alléluia. Le grand Paul, pharisien passionné, il était passionné par le mal. Mais parce qu'il est revêtu, il sera revêtu, alléluia, de la puissance du Saint-Esprit, il sera un homme transformé. Donc, le grand Moïse, le grand Paul, pharisien passionné de la loi de Moïse, a été stoppé dans son élan par la puissance du Saint-Esprit. My God, qui peut résister? Personne. Par la puissance du Saint-Esprit, par Jésus qui a rassuré les disciples qu'il est présent tous les jours de la vie des hommes jusqu'à la fin des temps. Il vit dans l'éternité du temps et l'espace. Nous avons lu tout à l'heure Matthieu 28, verset 20, où il dit qu'il sera avec eux tous les jours de leur vie. Amen. Jésus, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent, comme Dieu va activer un de ses messagers et disciples sur la terre, en la personne d'Ananias. Il lui dira depuis le ciel où habite Paul et ce qu'il fait en ce moment. Acte 9, verset 10 à 12. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Donc, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle. C'est précis. Il n'a pas dit, va là-bas et puis tu cherches. Non. Il dit, va dans la rue qu'on appelle la belle. Donc, il sait que la rue où il va là s'appelle la belle. Il n'aura pas à chercher. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc, quand il va arriver à la rue qu'on appelle la droite, alléluia, on lui dit, mais là, dans cette rue-là, tu vas chercher, amen, un homme appelé Saul de Tarse. Alléluia. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Alléluia. Donc, non seulement, comment il s'appelle? Paul de Tarse était dans un endroit aveugle, 3 jours sans manger, sans boire. Alléluia. Il était là sans manger, sans boire. Mais dans cette position-là, dans cette situation difficile où tu ne vois pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas, Dieu te parle. Dieu te dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Ananias qui viendra. qui va t'imposer les mains. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Il va toucher tes yeux. Tes écailles vont tomber. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu a envoyé chez Paul. Ananias était aussi rempli du Saint-Esprit. Amen. Et c'est lui que Dieu a choisi pour aller aussi revêtir Paul de Tarse de la puissance du Saint-Esprit. Donc, Paul savait qui venait. Vous savez, c'est deux fois compliqué, on ne sait jamais. Quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit ou Dieu m'a envoyé te dire. Ah! Et toi, tu n'as pas le discernement. Comme tu entends Dieu, tu te précipites, tu dis, oui, j'écoute, oui, je viens avec toi. Mais Paul, là, Dieu lui avait dit qui était la personne qui devait venir le voir. Il lui a donné le nom et ce qu'il devait lui faire. Donc, ce que Dieu a révélé à Paul, c'est ce qu'il a révélé aussi, c'est ce qu'il a dit à Ananias. Donc, Paul savait que celui-là, c'est bien Dieu qui l'a envoyé. Donc, faisons attention à ces gens de ces paroles de « Dieu m'a dit » parce qu'on aime trop les révélations. On aime trop les révélations. Donc, on dit, oui, tu sais, Dieu m'a dit. Ah, comme tu es serviteur de Dieu, comme tu es servant de Dieu. Donc, si tu me dis ça, c'est que Dieu t'a parlé. C'est faux. C'est pas parce que tu es serviteur de Dieu ou servant de Dieu que forcément Dieu t'a parlé sur la personne. Mais comme tu es avide de prophétie, avide de révélation, tu viens et puis tu acceptes ce qu'il ne fallait pas accepter. Et c'est comme ça que on va te dire, bon, tu sais, cette révélation, lorsque Dieu dit quelque chose, il faut sceller, il faut s'aimer. Et puis bêtement, si tu vas, tu sèmes, et puis tu dis, oui, voilà, j'ai reçu ma révélation, j'ai scellé ça. Tu n'as rien scellé du tout. Amen. Donc, mais Ananias a eu peur à cause de la réputation toxique de Paul qui avait traversé les frontières de Jérusalem, acte 9, verset 13 à 14. Et voilà maintenant Ananias qui dit. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc Ananias a eu... Ananias a dit, non Seigneur, cet homme-là, comment tu peux m'envoyer là-bas? Regarde, il n'a pas un bon témoignage et tout. Mais Jésus le rassure en disant qu'il est l'instrument qu'il a choisi, alléluia, pour porter son nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et il lui montrera ce qu'il doit faire. Acte 9, verset 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Le verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc, Dieu rassure Ananias pour lui que cet homme-là, c'est mon instrument. Va, il ne te fera rien. Ananias, en confiance au Seigneur, Ananias eut confiance au Seigneur, il sortit, retrouva Paul et lui imposa les mains, lui remplit de la puissance du Saint-Esprit. Et aussitôt, il recouvra la vue. Acte 9, verset 17 à 19. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, Saul, mon frère !» Auparavant, il avait dit quoi? « Ah non, Seigneur, lui-là, il a une mauvaise réputation. » Mais Dieu l'a rassuré, dit, « Vas-y. » Et donc, il dit quoi? Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le verset 18 dit ceci, au même moment, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Alléluia. Et fut baptisé. Bien, mais Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Quelle
personne pourrait prendre un homme comme Paul là pour dire que lui là, je prends cet homme pour travailler avec moi. Quelqu'un qui est un hors la loi comme ça, ce n'est pas possible. Mais ce sont les personnes hors la loi que Jésus aime. Parce qu'il veut manifester sa gloire avec ces personnes. Donc toi qui es rejeté là, humilié, on te prend pour je ne sais pas qui là, dis seulement que mon rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Alléluia. Aujourd'hui, vous me rejetez. Aujourd'hui, j'ai une mauvaise réputation. Mais Jésus me dit, c'est toi que je vais choisir. C'est toi, c'est ta mauvaise réputation-là qui va amener les âmes à Christ. Parce que je vais te transformer, je vais te changer. Et quand les gens te verront, ils diront, non, c'est pas possible. C'est pas la Rachel qui traînait là. Non, Dieu ne peut pas marcher avec une personne comme ça. Oh si, il a dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux qui sont malades. Être malade, ça veut pas seulement dire être allongé sur un lit d'hôpital, je sais pas moi, bien tu souffres. Non, non, non. Tu es malade parce que tu ne connais pas Dieu. Donc tu fais les choses selon tes sens. Et Dieu te dit, non, 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 toi tu es l'instrument. La même manière que tu es zélé dans le mal, tu seras zélé dans mon œuvre. Dieu est merveilleux. Alléluia. Donc, on continue, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va se manifester dans la ville de Philippe, en Macédoine, alléluia, où Paul et Silas, voilà, on continue, où Paul et Silas seront emprisonnés par les magistrats pour avoir dérangé l'ordre établi dans la cité, où une servante qui avait l'esprit plutôt de Python, procurait de grands profits à ses maîtres. Après les prières de Paul et Silas, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Est descendue les libérer, mettant en difficulté le geôlier qui a voulu se suicider. Mais Paul rassura le geôlier et sa famille furent baptisés et sauvés au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Paul a été rempli du Saint-Esprit. Mais ça ne voulait pas dire qu'il allait proclamer la parole de Dieu dans le calme. Non! Il allait être persécuté. À cause de qui? À cause du nom de Jésus. Alléluia! Oui, il a fait la prison. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté dans la prison. Au point où le geôlier voulait se suicider. Ah, Paul lui dit, non mon frère, ne te suicide pas, il n'y a rien de grave. Mais ta vie va être transformée, toi et ta famille, vous allez accepter Jésus et les choses changeront dans vos vies. Acte 16, verset 16 à 34. Acte 16. Verset 16 à 34, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Dieu n'est-il pas merveilleux? La parole de Dieu. On découvre les choses dans la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je vais lire. La lecture sera peut-être un peu longue, mais il faut qu'on lise. Parce que je vous dis ce que j'ai écrit, mais il faudrait que vous sachiez que ce que j'ai dit là, hein, c'est dans la Bible. Et donc, je veux lire ce qui est écrit dans la Bible. Je vais lire la parole de Dieu. Donc, dans le livre de Actes 16, à partir du verset 16 au verset 34, je lis la parole de Dieu avec respect. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, alléluia, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. My God. « Je t'ordonne. » Il a dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. » Tu ne joues pas avec les esprits mauvais. Tu leur intimes, tu les commandes de sortir. Tu ne dis pas « Oh, tu vas sortir. » Non, je t'ordonne. Libère la vie de cette femme. Ça, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu parles avec assurance et tu sais que quelque chose va se passer. Amen. Le verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'esprit de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Mais comment tu viens déranger nos affaires? C'est comme ça qu'on gagnait de l'argent. Tu es qui pour venir tout déranger? On ne va pas te laisser comme ça. Tu vas voir qui nous sommes aussi. Aïe, aïe, aïe. Puissance contre puissance, n'est-ce pas? Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, il te sera difficile de régimber, n'est-ce pas, contre tes aiguilles. Ah, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne pourras pas, ils vont te manger. Amen. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Ils ont ordonné qu'on les bâtit de verges, comme Paul avait ordonné à cet esprit-là de sortir, alléluia, de la vie de cette femme. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en commandant au geôlier de les garder sûrement. Amen. Ça devient intéressant. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Ils étaient attachés. C'est-à-dire que si on ne vient pas te détacher, tu ne peux pas. Vers le milieu de la nuit, my God, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La puissance de la prière et des louanges. Ils ont fait quoi? Ils n'ont fait que prier et louer. Ils n'ont pas condamné ces gens. Ils n'ont pas dit, Seigneur, il faut les juger. Seigneur, c'est... non! Dans cette adoration, dans cette louange, dans ces prières, quelque chose de grandiose s'est passé. Alléluia. Ils n'ont pas pleuré. Hein. Ils n'ont pas dit, Jésus, comment tu peux nous laisser comme ça? Non! Ils ont prié. Ils ont loué. Alléluia! Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils ne chantaient pas doucement. Hein. Si les prisonniers les entendaient, c'est qu'ils priaient fort et ils chantaient fort. Ça, c'était pour impacter ces gens-là. Alléluia! Donc, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Regardez. Est-ce qu'ils avaient des armes avec eux, des instruments avec eux? Non, pour que la prison tremble. Non, c'est juste la prière. Et la louange, qui a appelé la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce ne sont pas seulement les liens de Paul et Silas, mais les liens de tous les prisonniers. Les liens de tous les prisonniers. Donc, il fallait que ces prisonniers-là soient libérés. Dieu ne pourrait pas seulement libérer ses instruments. Alléluia. Non, je veux relire. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Au même instant, écoutez bien, au même instant, toutes les portes de la prison, my God, toutes, pas seulement la porte où étaient Paul et Silas, non, toutes les portes de la prison, alléluia, s'ouvrit, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait, et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Non, les portes étaient ouvertes, alléluia, mais les prisonniers étaient là. Donc lui s'est dit, qui va porter ce fardeau-là, ça, ce n'est pas mieux, je me suicide. Amen. Mais Paul cria d'une voix forte. Non, mais si tu ne cries pas, tu ne peux pas te faire entendre. Donc Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Donc il a rassuré le geôlier en disant, ne te fais point de mal. Personne n'est sorti. Nous sommes tous là. Amen. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Alléluia. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. La parole de Dieu nous dit au verset 33, « Il les prit avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. » Et au verset 34, « Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. » Alléluia. Tu peux pas être un instrument de Dieu et que là où tu te trouves, quelque chose d'extraordinaire ne se passe pas. Non. Si il était en prison pour un but précis, là où les serviteurs de Dieu sont, forcément quelque chose doit se passer. Je parle de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont vrais avec Dieu, ceux qui ne sont pas des Ananias et Saphira. Forcément quelque chose de glorieux va se passer. Alléluia. On continue. Paul, devenu instrument de Jésus, a pour mission d'implanter la nouvelle église, celle du cœur, l'épouse du Christ. Alléluia. Bien aimé, l'église, c'est toi. Ce ne sont pas les bâtiments. Donc, Paul voulait maintenant faire quelque chose dans le cœur des croyants. Amen. Pour cela, il va nous édifier sur les dons spirituels qui sont cachés dans la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 12. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ça concerne les dons spirituels. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand il y a des personnes qui se battent pour avoir les dons que les autres ont là, mais ça c'est n'importe quoi, Dieu t'a donné un don, par exemple, parole de connaissance. L'autre t'a donné, et il te donne parole de connaissance, alléluia, parole de sagesse, mais contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Non, mais nous sommes dans la concurrence. Voilà pourquoi on rate nos missions. Tu n'es pas dans le couloir où Dieu t'attend. Comme au jour d'aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Parce que les prophètes prophétisent. Mais sûrement tous les prophètes qui prophétisent tous les jours. Les prophètes ne sont pas là seulement pour prophétiser. Ils sont aussi pour enseigner. Et c'est dans l'enseignement même que tu reçois ta délivrance, tu reçois ta révélation. Je ne sais pas. Non, mais tout le monde veut être prophète. Tout le monde veut prophétiser. Écoutez la parole de Dieu. Donc, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas le don de guérison que tu n'es pas un appelé de Dieu? Non, tout le monde veut être guérisseur. Non, guérisseur, c'est quand c'est chez les marabouts là-bas. Mais tout le monde veut avoir le don de guérison. Mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Ne viens pas mentir aux gens. Alléluia. Et puis d'abord, ce n'est pas toi qui guéris. Je te guéris. On oublie même de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont là. Je te guéris. C'est grâce à moi que tu es guéri. C'est grâce à moi que tu as réussi. Tu es qui? Tu n'es qu'un instrument de Dieu. À qui il a mis la parole de connaissance dans ta bouche? À qui il a donné le don de guérison? Si c'est pas lui-là, tu ne peux rien faire. Alléluia. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Vous voyez qu'il donne les dons à qui il veut. Il n'a pas dit, toi, tu auras tous ces dons-là. C'est-à-dire que, je sais pas moi, tu veux être propriétaire de tous les dons. Mais tu n'excelles pas dans ça. Lorsque Dieu te donne un don, bon sang, bien-aimé dans le Seigneur, fais tout pour exceller dans ce seul don-là. Ne cherche pas à avoir plusieurs dons et puis tu ne fais rien de bon. Seigneur, conduis-moi dans le don que tu m'as donné. Je vais exceller dans ce don pour la gloire de ton nom. Alléluia. Donc, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Alléluia, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, et l'unité de la foi, donc Éphésiens 4, donc pour cela, il va nous édifier sur les dons spirituels qui sont cachés dans la puissance du Saint-Esprit. Nous venons de lire 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11, et l'unité de la foi, Éphésiens 4, versets 1 à 16. Éphésiens 4, verset 1 à 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je vous ordonne, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il dit quoi? Le prisonnier dans le Seigneur. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, mais les enfants de Dieu, vous êtes quand même des comédiens. Hein? Je suis, comment il dit ça? Le serviteur inutile. Tellement, ça c'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité. Je suis le serviteur inutile. Serviteur inutile, c'est toi qui insultes les enfants de Dieu, c'est toi qui voles, c'est toi qui mens, c'est toi qui fais tout. Et tu dis, je suis le serviteur inutile de Dieu. Ça veut dire quoi? Si sans Dieu, je ne suis rien, donc je fais ce que Dieu me demande de faire, je suis inutile sans Dieu. Non, faut arrêter. Vous vous donnez des noms qui ne vous conviennent même pas. Paul ici dit, prisonnier dans le Seigneur. Il dit, prisonnier dans le Seigneur. Alléluia. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. C'est comme ça que nous, les croyants, les enfants de Dieu, nous devons marcher. Dans l'unité de la foi. Mais c'est pas la fausse humilité. Je suis un serviteur inutile. Je suis esclave de Jésus. Je suis... vous vous moquez de vous-même, hein? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Dans certaines versions, charité, c'est remplacé par amour. Amen. Alléluia. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu, un Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu excusez-moi, dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bien-aimé, il a donné à d'autres, tu es apôtre, tu es prophète, évangéliste, docteur, pasteur, docteur, mais tout est mélangé. On ne sait plus qui est pasteur, on ne sait plus qui est prophète, on ne sait plus qui est docteur, on ne sait plus qui est, comment on appelle ça, qui est apôtre, on ne sait plus. Le couloir le plus convoité, c'est le couloir de prophète. Pourquoi? Pourquoi? Vous le faites pour l'argent. Vous êtes des cupides. Le pasteur prend soin des brebis. Non, tu n'as plus le temps de prendre soin des brebis. Tu commences à donner les paroles de connaissance. Tu commences à prophétiser. Ce n'est pas interdit. Peut-être que Dieu peut te donner. Alléluia. Mais ce n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est de t'occuper de ces enfants. Quelles sont leurs préoccupations? Comment est-ce que tu peux les aider? Docteur, enseigne la parole. Non, tu n'enseignes plus la parole. Tu veux prophétiser. Regardez-moi ça. Vous convoitez ce couloir-là même. Pourquoi? Pourquoi? Amen. Donc, le pasteur et le docteur, ils ne sont plus dans leur couloir. J'ai reçu du Seigneur que tu dois quoi? Enseigne la parole de Dieu. Prends soin de lui. Quelles sont les préoccupations du troupeau que Dieu t'a donné? Comment est-ce que tu peux les aider? Si tu es incapable, qu'est-ce que tu fais? Tu vas devant la face de Dieu. Dis, Seigneur, cette situation-là, il n'y a que toi. Comment je peux faire pour sortir ta brebis? Parce que ce ne sont pas vos brebis. Ce sont les brebis de Dieu. Oui. Ça, je l'ai reçu. Parce que vous prenez les enfants de Dieu comme si ce sont vos choses. Ce sont les brebis. Il a dit, paissez mes brebis. Il n'a pas dit, paissez vos brebis. Amen. Donc, je continue. Le verset 13 disait, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Et c'est qui est le chef? C'est Christ. On n'a pas dit c'est un homme. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez que l'apôtre Paul insiste sur la charité, c'est-à-dire sur l'amour. Sans amour, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut arriver à rien faire. L'amour rassemble. Et lorsque nous sommes en union, là, nous sommes unis, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a l'amour dans cette unité, il y a des choses qui se passent. On prend des décisions sans pour autant frustrer les autres. Il faut qu'on se comprenne pour pouvoir bâtir. Il faut qu'on se comprenne pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir bâtir, avancer, il faut qu'il y ait quoi? L'amour. Mais trouve-t-on encore l'amour dans nos assemblées? C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas qu'aller dans une assemblée, c'est mauvais. Mais tisse, cherche une alliance avec ton Dieu. C'est-à-dire que l'Église, c'est toi. C'est toi. Cherche Dieu. Ne cherche pas les bâtiments, ne cherche pas les hommes qui vont te prophétiser. Puisque tu es avide des prophéties, eh bien on va te donner des fausses prophéties et tu seras frustré. Alléluia. Mais Paul a rappelé que c'est l'amour qui est le plus important des dons. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Qu'on nous allons lire, alléluia. Avant de mourir, Paul va déclarer ceci dans 2 Timothée 4, 6, verset 4, versets 6 à 8. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13, que tout le monde connaît. Alléluia. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Quand on n'a pas l'amour, tu fais du bruit pour rien. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Hein? Toi qui sers le Seigneur, là, tu n'as pas d'amour, tu viens pour ton gain. Tu penses que tu trompes Dieu, mais tu te trompes toi-même. Et toi-même, tu ne vois même pas qu'en faisant cela, ta vie ne change pas. Et pourtant, c'est toi que Dieu a établi, mais on ne voit rien dans ta vie. C'est-à-dire que tu ne donnes même pas envie. Les gens ne peuvent même pas se référer à toi en disant, ah, notre conducteur, vraiment, voilà comment il est, voilà comment... Non. Pourquoi? Parce que tu viens, c'est comme si tu étais obligé alors que tu es appelé. Donc, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Il n'y a pas d'amour. Donc, ton église, hein, ton bâtiment, je ne sais pas comment appeler ça, ne peut pas être prospère. Et tout doit être fait avec amour. Le verset 3 dit, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Alléluia. Tu as beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu ne meurs pas de faim. Tu as le linge à perte de vue. Tu te dis, bon, même si je donne, il y aura toujours. Mais tu le donnes avec prétention, quoi. Tu donnes à manger, tu dis, regarde-moi, ceux-là, ils n'ont rien à manger. Heureusement que je suis là pour leur donner à manger. Tu ne fais pas ça avec amour. Dieu te regarde. C'est triste. Tu penses que tu fais du bien, mais tu ne fais rien de bon. Amen. Donc, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle se réjouit. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour. C'est comme si, ça dit que là, Paul parle comme si c'était une personne. Comme si ça dessine, tu dis quoi? Cette personne-là qui est l'amour, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Amen. Donc, deux fois dans nos vies, on ne voit rien arriver de bon. C'est que nos vies sont bancales, tout simplement, parce qu'on n'a pas d'amour envers les autres, parce que on ne fait rien avec amour. Alléluia. Parce qu'on voit que nos intérêts, tu as l'impression de briller, d'avoir tout ce que tu veux. Au fond de toi-même, tu es malheureux. Tu pleures quand tu es seul. Parce que tu n'as pas d'amour. Donc, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Toutes ces choses-là vont disparaître. Quand tu es grand, tu peux plus faire les choses comme un enfant. Même le son de ta voix change. Alléluia. Mais, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, voici le verset qui couronne tout ce qu'on a lu là. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, qui est très importante. L'espérance, qui est très importante. La charité, oh là là. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? La charité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'amour est une puissance qui change, qui transforme, alléluia, la vie de quelqu'un. Donc, lorsque tu es revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, forcément, tu es habité par l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu ne peux rien manifester. Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Amen. Donc, avant de mourir, Paul va déclarer ceci dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu avec respect. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Il dit ceci. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans tous les combats qu'il a eus, il a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. My God. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Alléluia. Nous arrivons à la conclusion. Dieu est merveilleux. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message de la Pentecôte? Donc, en conclusion, la puissance du Saint-Esprit est comme la batterie d'un véhicule. Elle est disponible depuis 2000 ans. Pour l'acquérir, il faut que le vieil homme ou la vieille nature disparaisse pour laisser place au nouvel homme ou nouvelle nature. C'est en fait le passage de la chenille en papillon, où il est nécessaire de passer par un processus. Alléluia. La chenille, avant d'être papillon, a une marche à faire. Elle est d'abord chenille, et pour arriver à papillon, bien aimé dans le Seigneur, il y a tout un processus. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps rempli de rapines, un corps rempli de péchés. Non. Il faut que tu sois transformé. Et pour être transformé, il y a un processus à suivre. Tu dois d'abord passer, un, par la repentance. Nous allons lire cela dans Luc 3, versets 3 à 14. Luc 3, versets 3 à 14. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance à cause du pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Alléluia. Il leur répondit, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bien, il est bon, il est normal de se repentir. La repentance, c'est pas seulement reconnaître sa faute, l'avouer et ne plus recommencer, mais il faut produire maintenant les fruits de la repentance. Tu dis, je me suis repenti, oui. Mais tu vois ton frère qui a faim, tu ne donnes pas à manger. Tu vois ton frère qui a juste un linge, tu es là pour critiquer, mais tous les jours, il a la même chemise. Mais puisque tu peux lui donner une chemise, donne-lui. Mais tu ne donnes pas. Tu t'es repenti, mais tu ne produis aucun fruit de ta repentance. On ne voit rien en toi. C'est comme si tu n'étais pas repenti. Il vint aussi des publicains pour être baptisés et ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous a été, au-delà de ce qui vous a été ordonné. Alléluia. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Regardez, au Gabon là, quand les forces de l'ordre sont sur la route, au lieu de faire leur travail, le contrôle, si la visite technique est bien faite, a été bien faite, tu as ton permis, non seulement ils font ça, mais ils veulent extorquer encore. Au lieu de se contenter de leur salaire, non, parce qu'ils sont sur la route, sous le soleil, sous la pluie, ils font de ces taximans-là, bien de leur contrôle, comme si c'était quelque chose, leur 13e mois, quoi. Il faut arrêter, hein. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Donc, il dit, hein, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été donné. Ben, à des soldats aussi, il dit quoi? Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, mais contentez-vous de votre solde. Alléluia. Bien aimé, Dieu dans les cieux là-bas voit tout. C'est malheureux de voir les forces de l'ordre se comporter de la sorte. La personne est tout, il a tout, il est en règle. Non, il va trouver une faute, je ne sais pas, il prend les papiers de la personne, on ne sait même pas dans quel commissariat la mène. Donc le pauvre taximan est là, il tourne. Ils n'ont aucun respect pour les passagers. Tu ne sais pas s'il y a une urgence, quelqu'un qui va à l'hôpital ou quelqu'un qui a un rendez-vous d'emploi et tout. Non, tu viens, tu fais le boss là et tout, mais tu ne fais rien de bon. Va te repentir et dire à Dieu de changer ton cœur. Parce qu'ils transportent des gens. Ces personnes ont des occupations. Ces personnes ont des rendez-vous. Non, ils sont là. Ils n'en ont rien à faire. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Maintenant. Donc, ça, c'est la repentance. Le verset 14 dit ceci. Bon, je viens déjà de le lire. Hein. Donc, ne commettez ni extorsion, ni faute envers personne et contentez-vous de votre solde. Ça, c'est la repentance. Donc, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que tout ce que Jean a dit là, si tu ne fais pas ça, il est temps pour toi. Il est temps pour toi de changer, de produire les fruits de la repentance. Tu t'es repenti, oui, mais il faut qu'on voit les fruits de ta repentance. Voilà la réconciliation. Donc ça, nous allons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 33, du verset 1 au verset 15. Ici, il s'agit de la réconciliation de deux frères, donc Jacob et Ésaü. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Genèse, chapitre 33, à partir du verset 1 au verset 15. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. lui-même passa devant eux. Et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Alléluia. Bien-aimés, pour qu'il y ait vraiment la réconciliation, l'humilité doit être ton partage. Jacob s'est prosterné. Ses femmes se sont prosternées. Les servantes se sont prosternées devant son frère. Est-ce que ça veut dire que c'est une faiblesse? Non. Quand tu veux avoir la paix, l'humilité doit être ton partage. Et l'humilité te fait faire des choses que les gens ne comprendront pas. Mais parce que tu veux la paix, tu veux la réconciliation, alors qu'est-ce que Jacob et toute sa famille ont fait? Ils se sont prosternés devant Ésaü, qui est le frère jumeau de Jacob. Alléluia! Est-ce que c'est une faiblesse? Non. C'est l'amour. Tu veux la paix, l'amour est obligé de prendre le dessus. Alléluia! Pour la réconciliation. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ceux camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Il a voulu la réconciliation. Il s'est prosterné, il s'est humilié. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je vais amener des présents à mon frère. Donc il dit à Ésaü que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ces présents. C'est-à-dire que il a tout fait pour se réconcilier avec son frère. Il était prêt à tout. Mais dans son intention, c'était quoi? C'est qu'il y ait la paix entre ses deux frères. Il voulait la paix entre son frère et lui. Et donc, il s'est prosterné. Il s'est humilié. Ça, c'est quelqu'un qui a une grandeur d'esprit qui agit comme ça. Alléluia. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Et Jacob lui répondit, mon Seigneur, sais que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on força leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Bien-aimé, Jacob n'avait pas d'amour, si Jacob ne s'était pas humilié, cette réconciliation ne devait pas avoir lieu. Cette réconciliation n'aurait pas réussi. Mais lorsque tu veux quelque chose, tu mets tout de ton côté pour que la chose se fasse. Et c'est ce que Jacob a fait. Est-ce une faiblesse? Non. C'est quelqu'un qui avait de l'amour pour son frère. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu en lui l'a convaincu à faire cela pour qu'il y ait la paix. Donc, quand tu es habité du Saint-Esprit, il te dit comment les choses doivent se passer. Et en conclusion, c'est quoi? C'est la réussite, c'est le succès dans tout ce que tu as entrepris. Amen. Maintenant, la nouvelle naissance, avoir une identité en Christ. Romains 10, versets 9 à 11. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de Romains, chapitre 10, versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez un peu le processus, ça passe par la repentance, la réconciliation, maintenant ta nouvelle naissance pour avoir une identité en Christ. Donc si tu confesses, alléluia, de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc tu dois confesser, tu dois croire pour que tu sois sauvé. Alléluia. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, parole du Seigneur. Nous continuons dans le processus. Là, c'est maintenant le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Colossiens 5, verset 17. La parole de Colossiens chapitre 3, excusez-moi, à partir du verset 5 au verset 17. Colossiens 3, verset 5 à verset 17. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, c'est-à-dire la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Toutes ces choses, ce sont les choses de la chair qui doivent mourir en toi. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Dieu n'aime pas les rebelles. Donc, si tu es rebelle, repends-toi. Repends-toi. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Hé, croyant! Enfant de Dieu, fils de Dieu, comme on aime bien le dire, toutes ces choses ne doivent plus être en vous. Tu vas voir un enfant, il est toujours en colère. Quand il parle, ce sont des injures. Il n'est jamais de bonne humeur. Alléluia. Que des choses méchantes. Il agit méchamment. Ça, quand tu n'étais pas en Christ, tu étais dans l'ignorance, tu faisais ça. Mais ta nouvelle identité ne te permet pas d'être encore là-dedans. Tu ne peux pas demeurer dans les mêmes choses et puis dire tu es enfant de Dieu. Le verset 9 dit ceci. Alléluia. Ne mettez pas les uns, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ça, nous devons être revêtus de toutes ces choses. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon, très compliqué pour les enfants de Dieu. Pourquoi je vais pardonner? Ce n'est pas une faiblesse de pardonner. Moi, j'ai tort. Dieu ne t'a pas dit si tu as tort, si tu as raison. Il voit que même que tu as raison là, tu n'as pas la paix. Et pourtant, tu as raison. Hein? C'est la personne qui doit venir te demander pardon. Hein? Mais tu n'as pas la paix. Pourquoi tu n'as pas la paix? Et comme tu n'as pas la paix, Dieu qui connaît toutes choses, qui sonde le cœur, dit, mon enfant, la seule chose pour que tu retrouves la paix, pardonne, même si tu as raison. Oui, accepte le pardon de ton frère. Dieu, tu dis non, mais tu es rebelle. Et c'est pour ça que la colère de Dieu va tomber sur toi. Donc, la parole de Dieu nous dit, Je reprends le verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Christ a pardonné. Qui es-tu pour ne pas pardonner, bon sang? Qui es-tu? Dieu t'a pardonné des choses qu'aucun homme ne pouvait pardonner. Maintenant, toi, tu ne veux pas pardonner. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. Paul a dit qu'il y a la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande chose, c'est l'amour. Parce que l'amour te donne la capacité de faire les choses que, humainement parlant, tu ne peux pas faire. Est-ce que tu peux pardonner à un meurtrier, quelqu'un qui a tué ton enfant, et de fois ton enfant unique? Tu peux pardonner. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, si Dieu ne te donne pas la capacité là, tu peux pardonner? Non. Si Dieu ne te met pas cet amour en toi, tu peux pardonner? Non. Le verset 14 dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. Et le verset 15, et que la paix de Dieu, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Waouh. Excusez-moi. Voilà. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit. Ça veut dire que la puissance du Saint-Esprit demande beaucoup de choses. Amen. Pour que le Saint-Esprit puisse agir dans tout ce que tu fais, pour que sa puissance se manifeste, tu dois ranger ta vie. Parce qu'on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit doit être entretenu. Fais attention à comment tu parles. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à beaucoup de choses. Amen. Ce n'est pas le tout repos. Tu veux faire des miracles. Tu veux que le nom de Dieu soit glorifié à chaque fois que tu fais quelque chose. Entretiens cette relation. Ne joue pas avec cette puissance comme a fait Ananias et Saphira. Alléluia. Donc, Éphésiens 4, verset 17 à 32. Waouh. Éphésiens 4, verset 17 à 32. Je lis la parole de Dieu avec respect. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Lorsque tu es en colère, quel que soit ce qu'on t'a fait, tu es enfant de Dieu, tu es disciple de Jésus, cette parole te concerne. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Fais tout pour ne pas dormir en colère. Tu t'es mis en colère, tu étais dehors. Que cette colère ne rentre pas avec toi dans la maison parce que tu fais rentrer le démon dans ta maison et tu dors avec le démon là. Le démon de colère, ça veut dire que tu l'entretiens. Laisse-le dehors. Beaucoup de chrétiens dorment avec les démons dans la maison. Les démons de quoi? La haine, la jalousie, le mensonge, la colère. On dort avec ces démons-là sans le savoir. Donc, on les entretient. C'est nous qui déroulons le tapis rouge à Satan. Hein? Parce que la colère, l'animosité, l'amertume, la jalousie, la haine, c'est pas de Dieu, ça. Alléluia. Donc, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si tu gardes cette colère, c'est que tu ouvres ton cœur au diable et il s'assoit là tranquillement. Et tu veux que le Saint-Esprit puisse manifester sa puissance? Jamais. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, tu es en bonne santé, tu as toutes tes capacités, tu as tout, tu vas voler pourquoi? Travaille! Travaille! Alléluia! Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Tu ouvres ta bouche, c'est pour juger, c'est pour condamner, c'est pour insulter. Rien d'édifiant. Rien. Au point où quand on te voit, on dit, oh, qu'est-ce que cette personne-là? Non, ne dis jamais rien de bon. Moi, je ne peux pas passer mon temps à l'écouter. Tu es une personne qu'on n'a même pas envie de voir. Persona non grata. Continue ton chemin. Tu es enfant de Dieu, tu ne dois plus parler n'importe comment. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche doit édifier. Ce qui sort de ta bouche doit être des paroles d'amour. Peut-être que quelqu'un a besoin d'être réconforté. Toi, tu viens avec une parole d'amour, tu as fait quelque chose de grand, de bien. Mais tu es là, oh, mais toujours toi, tu aimes pleurer. Hein? Mais tu ne sais pas pourquoi la personne pleure. Tu es là, tu aimes pleurer, mais pourquoi tu pleures? Tu n'as rien fait de bon. Tu n'as fait que dire à la personne ce qu'elle est en train de faire. Tu aimes pleurer, mais je suis en train de pleurer, mais là, c'est quoi la solution? Tu n'as rien dit de bon. Vous voyez, donc pour que le Saint-Esprit, pour que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester en nous, mais il faut avoir une vie rangée de chair rangée. Ça veut dire que, bon, l'Esprit de Dieu m'habite. Je ne suis que l'ombre de moi-même. Maintenant, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Tu veux que les gens vont te traiter de bête? Non, mais tu sais que en te livrant, c'est-à-dire qu'en laissant le Saint-Esprit se manifester dans ta vie, mais que des choses extraordinaires vont se passer, que des choses extraordinaires. Alléluia. Donc, il faut entretenir cela. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible non plus. C'est-à-dire qu'il faut être passionné. Waouh! Il ne faut pas seulement aimer le Saint-Esprit. Hein? Il faut avoir de la passion pour le Saint-Esprit. Amen. Donc, je continue la lecture. Car, j'étais où là? Excusez-moi. Ok, 17 à 32. Le verset 29 dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'est-ce pas? Que toute amertume, écoutez bien, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Sinon, le Saint-Esprit n'est jamais là, ne sera jamais là, ne va même pas t'accompagner dans quoi que ce soit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, il faut l'amour. Il faut le pardon, il faut la patience. Alléluia. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le processus est long, hein? Donc, il faut aussi aimer son prochain. Donc, on passe aussi par l'amour du prochain. Alléluia. L'amour du prochain. Dans Matthieu 25, à partir du verset 42 au verset 46, la parole de Dieu dit ceci. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront ainsi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, un bienfait n'est jamais perdu. Je m'explique. Tu fais du bien à un enfant ou à quelqu'un que tu ne connais pas, sans pour autant t'attendre à un retour. Tu ne sais pas comment est-ce que ça rejoue le cœur de Dieu. J'ai dit, tout ce que nous faisons là, tout ce que nous lions là, c'est lié là-bas. Tout ce que nous délions, c'est délié là-bas. Tout ce que nous faisons ici, là, là-haut, là-bas, écrit tout. Dieu écrit tout. Tu vois quelqu'un qui a faim. Tu as un bout de pain. Tu dis, ah non, 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 ça, je ne peux pas partager ça. Non, 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 non. Dieu te dit, partage. Ou bien même quand tu es en abondance, mais tu es avare. Quelle avarice! Dieu condamne les avares. Alléluia. Donc, ne nous lassons pas de faire du bien et ne nous attendons pas à un retour. C'est Dieu qui va te récompenser. C'est Dieu, c'est-à-dire que tu rends service à quelqu'un, mais tu oublies, tu continues ton chemin. Beaucoup sont passés à côté de beaucoup de choses aussi. Beaucoup ont rencontré des anges qu'ils ont négligés. Donc, quand tu peux rends service et ne t'attends à rien. C'est Dieu qui te récompensera. Vous voyez comment le processus est long et deux fois difficile. Mais lorsqu'on veut accéder au salut, lorsqu'on veut que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans tout ce que nous faisons, on est obligé de passer par le processus. Alléluia. Vivre dans la lumière du Christ. Éphésiens 5, versets 1 à 10. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Écoutez, à partir du verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ne soit pas même nommée parmi vous. Vous voyez que on dit quoi? Le Saint-Esprit, il est saint. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur, écoutez bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est reprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Bon, je suis allée jusqu'au verset 14, ce n'est pas grave. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, prophétesse Maria, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence. Amen. Vous voyez, donc pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans nos vies, nous devons avoir une vie rangée. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps colérique, un corps jaloux, un corps haineux, un corps où de la bouche sortent que des injures. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment être, lorsqu'on a de la passion pour quelque chose, on fait tout. Alléluia, pour faire plaisir. Si tu as de la passion pour le Saint-Esprit, vraiment, fais tout pour plaire au Saint-Esprit. Les apôtres étaient passionnés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils faisaient des choses extraordinaires. Ils étaient qui, les apôtres? Ils étaient comme nous, bien-aimés dans le Seigneur. La peau, la chair, les... ils étaient comme nous. Alléluia. Mais ils étaient tellement passionnés du Saint-Esprit qu'ils voulaient que le nom de Dieu soit glorifié dans tout ce qu'ils posaient comme acte. Est-ce que c'est pas merveilleux? Quand Pierre et Jean ont dit au boiteux, my God, my God, my God, my God, on n'a ni argent ni or, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, my God, lève-toi et marche. La parole de Dieu dit quoi? Pierre et Jean l'ont pris par les mains. Il s'est levé. Il a marché. Lève-toi et marche. Il courait. Mais on ne s'aime pas. On se critique. On ne s'entraide pas. Tu peux donner à ton frère, tu ne donnes pas. Et puis tu es la Saint-Esprit de Dieu. Quel Saint-Esprit de Dieu, my God? Quel Saint-Esprit de Dieu? Quelqu'un a mal à la tête. Homme de Dieu, servant de Dieu, est-ce que vous pouvez prier pour moi? C'est quoi les maux de tête? C'est quoi les maux de tête? Mais même ça, Dieu ne remplit, Dieu ne nous exauce pas parce qu'il connaît nos cœurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire à l'enfant de Dieu qu'au nom de Jésus, tu es guéri? Reçois ta guérison. Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Il peut, mais quand il voit l'état de notre cœur. Tu vas aller dire partout, cet enfant-là, ça fait 2 ans, se plaint des migraines, mais quand moi j'ai imposé les mains, revoyons notre langage. Quand Dieu m'a utilisé, quand la puissance de Dieu s'est manifestée, l'enfant était guéri. Notre bouche nous condamne. Moi, je. Tu es l'instrument que Dieu a utilisé. Mais à cause du moi, nous ne voyons pas la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez tout le processus là. On doit passer par la repentance, la réconciliation, la nouvelle naissance, avoir une nouvelle identité en Christ. On doit avoir l'intelligence renouvelée. On doit aimer le prochain. Nous devons vivre dans la lumière de Dieu. Tout seul. Si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu ne veux pas un changement en toi, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Paul et Silas en prison, persécutés, ils n'ont pas condamné Dieu que, attends, tu nous as dit que tu devais être avec nous tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Pourquoi nous sommes persécutés? Non, ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont prié, ils ont loué. La parole de Dieu dit quoi? La prison a tremblé, toutes les portes se sont ouvertes. Une puissance, c'était qui? Le Saint-Esprit. Au point, le geôlier a eu peur, il voulait se suicider. Pierre a dit quoi? Non, frère, ne te suicide pas. Hein? Jean et Pierre en prison. Dieu a vu l'amour qu'ils avaient, la passion qu'ils avaient pour son œuvre. Envoyer le Saint-Esprit qui est descendu avec une puissance. Un ange descend pour les sortir devant les geôliers qui n'ont rien vu. Dieu n'a pas dit tu les sors de là et qu'il fuit. Non, allez au temple, prêchez la bonne nouvelle. Que la passion envers le Saint-Esprit soit notre partage, pour que nous puissions manifester des grandes choses et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit toujours et toujours glorifié. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, hier quand j'ai commencé l'enseignement, c'est mon mari qui m'a rappelé. En disant, on avait une croisade. Je ne parle pas anglais. C'est les petits mots là comme ça. Moi, on était dans un hôtel avec un homme de Dieu qui avait été invité pour la croisade. Et on descend au petit déjeuner. Je commence à prophétiser sur l'homme de Dieu en anglais. Et le pasteur de l'église qui était là, un des pasteurs, était étonné. Et l'homme de Dieu a vu que le pasteur était étonné. Mais pourquoi tu es étonné? Parce qu'elle ne parle pas anglais. L'homme de Dieu a dit quoi? Est-ce que c'est moi? Le Saint-Esprit m'avait saisi pour parler à son serviteur. Qui suis-je? Ça, ce n'est pas les merveilles de la puissance du Saint-Esprit. Quand Dieu voit ton cœur, quand Dieu voit l'amour que tu as pour son œil, tu peux être une personne rejetée par la société. C'est toi qui vas utiliser. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je voudrais vous rappeler quelque chose sur Paul. Pourquoi Jésus a choisi Paul? Alléluia. Un petit pic de rappel. Paul est de la tribu de Benjamin. Il n'a pas été choisi par hasard par Jésus. Alléluia. Philippiens 3, 5 nous dit quoi? Philippiens 3, verset 5, j'ai la parole de Dieu avec respect. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, hébreu, quant à la loi. Alléluia. Donc ça, c'est Philippiens chapitre 3 au verset 5. Donc je disais, Paul est de la tribu de Benjamin. Il n'a pas été choisi par hasard par Jésus. Il faut remonter à la naissance de Benjamin où Rachel avait, avant de rendre l'âme, a donné le nom de Ben-Oni, qui veut dire fils de malheur, parce qu'elle a accouché dans des conditions très difficiles. Alléluia. Mais Jacob, conscient des conséquences futures, a donné le nom de Benjamin, qui veut dire fils du succès. Alléluia. Donc, vous voyez que Paul, le nom que Rachel a donné à son fils s'est reporté sur, comment il s'appelle, sur Paul. Vous voyez comment Paul était avant. C'était un fils du malheur. Il faisait tout et n'importe quoi, des choses qu'il ne confessait pas le nom de Dieu. Alléluia. Mais Jacob a vu que ça aurait des conséquences, donc il a donné Benjamin, ça veut dire fils du succès. Regardez Paul. Lorsqu'il est passé de l'homme animal à l'homme spirituel, lorsqu'il était homme spirituel, regardez tout ce que Paul a fait, regardez tous les livres que Paul a écrits. Aujourd'hui, on continue encore de parler de Paul parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Alléluia. Attention, les noms, il faut savoir quel nom donnent nos enfants. Donc, Paul n'a pas été choisi pour rien. Il faisait partie de la tribu de Benjamin. Alléluia. Donc, Paul représente l'homme sur deux dimensions. Saul, qui était persécuteur et qui a apporté le malheur chez les fidèles de Jésus jusqu'à vouloir les persécuter à Damas, étant un homme animal. Deux, Paul, L'homme affranchi et transformé. Donc, Saul, c'était le nom que Rachel avait donné à son fils Ben-Oni, qui veut dire fils de malheur. Et maintenant, Paul, c'est le nom, donc Benjamin, que il s'appelle comment, Jacob a donné à son fils, donc le fils du succès. Paul, maintenant, a fait des trucs avec succès. Alléluia. Même dans la persécution, il réussissait ses missions. Alléluia. Donc, Paul, homme affranchi et transformé par Jésus, a maintenant pour identité Christ. Il est devenu l'homme spirituel. Il ne vit que pour le Christ. Il est passionné par le Christ. Il est passionné. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit s'est toujours manifestée dans tout ce qu'il faisait. Il montre à l'humanité le chemin à suivre, de l'homme animal à l'homme spirituel. Alléluia. Donc, quand tu es homme animal, tu es conduit par tes facultés, par tes émotions, par tes sens. Alors que lorsque tu deviens homme spirituel, ben c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est l'enseignement que Paul voulait nous donner. Amen. Maintenant, nous allons terminer. Voici le résumé après la conclusion. Tout l'Ancien Testament et les évangélistes trouvent leur accomplissement. 1. À la Pâque où Jésus est venu ôter le péché commis au jardin d'Éden par Adam et Ève. 2. Ouvrir le chemin qui mène à la vie éternelle pour quiconque croit, alléluia, en lui-même. À la dernière minute. 3. Revêtir un corps glorieux et incorruptible après la résurrection. 4. Il a demeuré 40 jours avec les apôtres pour manifester la signature divine que c'est bien Jésus le Sauveur. 5. Il est venu rétablir la communication avec Dieu et redonner à l'être humain la puissance qu'il a perdue au Jardin d'Éden à travers les dons spirituels le jour de la Pentecôte. 6. Construire l'Église de cœur. L'épouse de Jésus en construisant son architecture à travers les 5 ministères. Alléluia. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Et pour terminer, rappeler que l'amour envers son prochain, y compris les ennemis, est la principale chose à pratiquer sur cette terre de pèlerinage. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement sur la Pentecôte. C'est clair qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, mais je crois que depuis hier, nous avons été enseignés. Amen. Dieu est merveilleux. Je bénis l'Éternel pour la vie de toutes les personnes qui se sont connectées. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Alors, je voudrais faire un appel au salut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont enfants de Dieu, mais qui sont découragées au point de lâcher la main de Dieu et chercher le secours ailleurs. Mais j'aimerais te dire ceci. Le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Fais-lui toujours confiance. Cet enseignement doit te parler. Les apôtres ont fait la prison. Les apôtres ont été frappés. D'autres sont morts en pleine mission. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qui es-tu pour ne pas être persécuté? Tu penses que Dieu t'a laissé tomber? Non. Il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Donc, dans la détresse, il est là. Dans les persécutions, il est là. Même si tu ne le vois pas, mais il est là. Alors, ne lâche pas la main de Dieu. Alléluia. Reviens à l'Éternel. Repends-toi de ce que tu as voulu t'éloigner de lui et dis-lui, Seigneur, je me repens, je te demande pardon, mais je reviens. Merci, Père, pour cet enseignement qui m'a reboosté. À toi toute la gloire. Mais à celui qui entendra ce message, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus,
je t'invite solennellement à donner ta vie à Jésus. Je ne te dis pas que tu ne seras pas persécuté. Si tu écoutes cet enseignement, tu sais que tu seras persécuté. Si les apôtres qui étaient aussi passionnés du Saint-Esprit ont été persécutés, qui es-tu pour ne pas être persécuté? Alors Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon, Papa, pour mes péchés. Accepte mon pardon et accueille-moi dans ta bergerie. Aujourd'hui, je veux faire partie de tes enfants. Merci de me pardonner. Merci de m'aimer. Alléluia. Donc, juste quelque chose qui sort de ton cœur comme ça. Et tu acceptes Jésus. Et sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la maison de ton Père. Il t'accepte tel que tu es. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse votre journée, ce lundi de Pentecôte. Que Dieu vous donne la force et que vous acceptez cette force d'aimer vos ennemis, alléluia, et que de notre bouche sortent toujours des paroles d'amour, des paroles de bénédiction, des paroles édifiantes, alléluia. Si nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans nos vies, dans tout ce que nous entreprenons, soyons passionnés du Saint-Esprit et nous allons, tout ce que nous ferons sera que réussite et succès pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, passez une excellente journée. Alléluia. C'était votre humble sœur et servante, le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus. Soyez divinement bénis. Amen.